Alors, je vous ai fait un petit bonjour. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà dit pendant les deux derniers dimanches. J'ai fait ça sous forme de tableau. Ok. Alors, l'avant-scène de Moïse. En tout cas, pour, même pour ceux qui n'ont pas de référence à la loi de Moïse ou qui ont des lacunes en termes de connaissances bibliques, ben, la loi de Moïse, je l'ai expliqué, c'est cette fameuse loi de cause à effet. Parce que je fais un point, parce que je veux obtenir ou arriver au point B, je mets en place toute une série de choses qui vont me permettre d'obtenir ce point B. Ça ne fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne. Hein, je donne des exemples, comme par exemple, vous élevez vos enfants d'une certaine manière, suivant certaines valeurs, et vous aurez comme résultat des gens responsables. Parfois, oui. Parfois, l'influence, ça joue, hein, bien sûr. Mais parfois, non. Et parfois, vous avez des parents totalement inconséquents et même franchement dangereux. Et quelque part, parfois, les enfants de ces personnes, entre guillemets, tourneront bien. Okay. Alors, la voie en scène de Moïse. Notre objectif, si on est sur cette voie-là, et je pense que beaucoup de chrétiens sans le savoir y sont, ben, notre objectif, c'est une vie meilleure. On a envie d'être heureux, d'être tout simplement heureux, de connaître le bonheur ici-bas. Et on a envie surtout de connaître les bénédictions de Dieu. On vit pour que Dieu nous bénisse. On ne vit pas pour lui, pour le connaître lui, mais pour qu'il nous bénisse. À l'opposé, dans la voie nouvelle que ouvre Jésus, on n'a qu'à relire les évangiles, hein, c'est vraiment ça, l'objectif là, c'est l'espérance meilleure de la proximité avec Dieu. C'est ça que propose Jésus, c'est ce chemin-là qu'il a ouvert, c'est qu'on est, appelé à devenir des intimes de Dieu. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas encore, Dieu est une personne avec qui il y a possibilité d'être en relation. Deuxième point, sur la voie ancienne, ben, vous allez suivre des principes pour les chrétiens bibliques, pour les non-chrétiens philosophiques, il y a des non-chrétiens qui ont des très belles valeurs. Hein, et on va essayer de suivre toute sa vie ces valeurs ou ces principes. Pour les chrétiens, on va attendre des bénédictions et on va se tenir à ce schéma. Dans l'autre côté, on sait forcément, plus on fréquente Dieu, qu'on n'est pas grand-chose. On va donc implorer sa miséricorde, donc sa compassion envers nous, son pardon envers nous en permanence, sachant que nous sommes que des hommes et pas Dieu. On va progressivement de plus en plus découvrir la grâce de Dieu, parce que la grâce, on en parle partout de la grâce de Dieu dans les églises. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de grâce. On ne se fait pas grâce. On ne se pardonne pas, ni à soi-même, ni aux autres. Et forcément, puisqu'il n'y a plus de pression, on va expérimenter ce que la Bible nous annonce en long, en large et en travers. On va expérimenter le repos de Dieu. On va être en paix. Le premier chant qu'on vient d'écouter parlait de paix intérieure. Première mouture, ben, on est en sous-pression tout le temps, vis-à-vis des autres, de la société, et surtout vis-à-vis de Dieu. Dans l'autre cas de figure, ben, on lâche prise. On existe pour Dieu et par Dieu, on le sait, donc à la limite, advienne que pourra. Première mouture, vous êtes sous la loi de la linéarité, donc c'est-à-dire que vous pensez que parce que vous allez mettre en place et vivre selon certaines valeurs, votre vie tournera bien. Rappelez que le premier message que j'ai fait sur le sujet, j'avais cité l'exemple d'un ami que je connais depuis, enfin, de quelqu'un que je connais depuis 25 ans, qui est missionnaire, voilà, c'est un homme de Dieu, il est pour l'instant dans une chaise roulante, après un accident de voiture. Pourtant, il a fait tout ce qu'il fallait, et ça a mal tourné. Si vous êtes sur ce chemin-là, quand une tuile vous arrive, sur le premier chemin, vous êtes mort, parce que vous allez en vouloir à Dieu de ce qui vous arrive. Deuxième mouture, vous êtes sous la loi de la liberté. Vous êtes libre de tout, de la pression que fait peser sur vous tout ce qui n'est pas Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est le résumé. On ne va pas s'arrêter là quand même. On va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, si on est honnête deux secondes, et c'est quand même ce qu'on essaye de faire, le nouveau chemin inauguré par Jésus nous pose quand même, me semble-t-il, hein, comporte deux difficultés pour vous et moi. La première, c'est que, et ça vous l'avez peut-être compris quand même en filigrane, la première, c'est que ce nouveau chemin requiert que nous renoncions à tout contrôle, je dis bien à tout contrôle, sur ce qui survient dans notre vie et que nous fassions confiance à Dieu pour accomplir ce qu'il estime être le mieux pour nous. C'est très facile de dire « c'est Dieu qui dirige ma vie », je viens de le dire en fait, c'est très facile à dire, mais dans les faits. Ce qui signifie que passer, par exemple, du temps régulièrement avec Dieu et avoir une vie de prière fervente n'empêcheront peut-être pas une éventuelle maladie grave. Je me rappelle d'un épisode il y a quelques années où je passe les détails. J'avais un ami qui était en stade terminal du cancer. Son pasteur était venu le voir en lui disant « Tu as un péché dans ta vie, tu n'as qu'à te confesser ton péché et Dieu te guérira. » Merveilleux comme théologie. Hein. Et moi, je me suis contenté à dire à mon ami, j'ai dit « Tu sais, les chrétiens, ça meurt aussi. » Un chrétien, ça, vous êtes au courant que vous n'allez pas vivre 3 000 ans ici-bas. Hein. Vous allez mourir un jour. Hein. Et parce qu'il a commencé à réfléchir autrement par rapport à ça, il a vécu il est mort aujourd'hui, hein, Yves. Mais il a vécu l'expérience la plus extraordinaire spirituellement de la présence de Dieu parce qu'il a accepté le projet de Dieu pour sa vie qui était, en ce qui le concerne à ce moment-là, de dire qu'il allait quitter cette terre. C'est aussi bête que ça. Et si, par exemple, de temps en temps, il y a une bénédiction ou des bénédictions qui pleuvent dans votre vie, ben, tant mieux. Mais dans ce cas-là, je préfère parler d'influence plutôt que de contrôle sur les bénédictions qui nous sont accordées. Parce qu'on oublie pas, le premier chemin, c'est parce que je fais ce que Dieu me demande de faire, il va forcément me bénir. Deuxième petit problème que nous avons avec la voie que Jésus nous ouvre, il est tout simplement plus difficile d'aimer Dieu que ses bénédictions. C'est aussi bête que ça. Je ne sais pas si vous savez, mais les enfants aiment le Père Noël pour les cadeaux qu'il donne. C'est pour ça qu'ils aiment le Père Noël. Faites l'expérience. Et un jour, le Père Noël, je sais bien qu'il n'existe pas, hein, je sais, je suis au courant, hein. Et la plupart des gosses le savent aussi. Eh ben, essayez de fêter Noël avec des enfants en leur disant qu'ils n'auront pas de cadeaux, que le Père Noël n'apporte plus de cadeaux. Le Père Noël, il pourra retourner dans sa cheminée, ils n'auront plus rien à faire. Hein. Et on va arrêter de fêter Noël. Les gens fêtent Noël pourquoi ? Parce qu'il y a des cadeaux. Seul problème, c'est que dans notre façon de fonctionner, souvent, même inconsciemment, Dieu n'est qu'un Père Noël de substitution. Faites une autre expérience. Enfin, c'est rhétorique ce que je dis, on n'est pas obligé de le faire, mais demandez à un enfant s'il préfère que son père soit là le soir du réveillon, mais il n'y a pas de cadeau sous le sapin. Ou alors vous dites au gosse, ou alors papa ne sera pas là, mais il y aura plein de cadeaux sous le sapin. Eh bien, le père va devoir pouvoir aller se tirer à Katmandou, faire un restaurant tout seul, parce que le gosse va dire, la plupart des gosses diront, papa, il peut rester, moi je m'en fous, je veux des cadeaux. Alors si un parmi vous dit, moi j'ai préféré mon papa et pas les cadeaux, vous me le dites, hein, mais il faut me le prendre en photo celui-là. Donc, au risque d'être taxé d'un affreux pessimisme, je pense que de nombreux enfants vont donc choisir les cadeaux et nous avec. Alors, cette vérité très humaine, très souvent vérifiée, vaut pour les chrétiens et les non-chrétiens. En fait, seule une personne mature va toujours préférer les bienfaits d'une présence à ceux des bienfaits ou des présents que peut apporter cette présence. Ça signifie une chose, pratiquement, c'est qu'à moins de s'engager véritablement sur le chemin de la découverte intime de Dieu, dont le chercher lui, vouloir le connaître lui, et d'apprendre à cultiver ce que la Bible appelle le goût de Dieu. Apprendre à pouvoir dire « Dieu est comme ça parce que moi je l'expérimente ». Nous préférons toujours les bénédictions de Dieu à l'espérance d'une plus grande intimité avec Dieu. Je pense objectivement que si notre volonté première, notre objectif premier de vie était de profondément connaître Dieu, ben, comme je l'ai dit dans la prière d'introduction, je pense que ça arrive de moins en moins souvent qu'on ne pense plus à lui. On ne l'oublierait pas autant, me semble-t-il. On oublie rarement les gens qu'on aime. Donc dans ce schéma, le premier, nous privilégions le contrôle en lieu et place de la confiance, donc de la foi, et nous retournons alors vers une sorte de linéarité plus acceptable parce qu'elle est teintée de religiosité. Parce que nous faisons des trucs religieux, nous pensons que Dieu est content avec ça et que forcément, puisque nous sommes dans la religion de quelque chose, nous allons être bénis par ce Dieu. Alors, beaucoup d'églises aujourd'hui, je pense qu'en Occident en tout cas, c'est une des raisons principales pour laquelle l'église ne va pas bien. Pour beaucoup d'églises aujourd'hui, et je pense que la nôtre ne fait pas exception, nous vivons comme si nous devions rien espérer de meilleur que ce que nous vivons ici, et maintenant, à savoir les bénédictions présentes aujourd'hui, maintenant, ici-bas. Et dans le même temps, nous avons ramené les exigences de Dieu à des niveaux humainement acceptables, qu'on peut plus ou moins approcher, de manière à nous sentir à l'aise, quant aux bénédictions que cette vie religieuse ne manquera pas de nous procurer. Pour le dire autrement, Jésus est devenu notre ticket d'entrée au ciel, ça nous arrange assez bien, mais il n'est toujours pas devenu notre meilleur ami. Alors, l'apôtre Paul, qui lui était un intime de Dieu, je pense qu'on peut le dire, pose un diagnostic assez radical sur cette façon de fonctionner. En fait, et je trouve ça comique, surtout dans le grec, dans le texte grec, il nous dit que nous sommes complètement fous. On va reprendre ce texte, que je vais terminer par ça dimanche passé. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Alors, entre parenthèses, je vous rappelais, c'est moi qui les ai rajouté ça, c'est-à-dire les rites et éléments des religions humaines d'où le vrai Dieu est absent. Donc, dans les religions humaines, il y a le christianisme aussi. On peut en faire une religion, c'est d'ailleurs ce que certains ont réussi à faire. Mais de cette religion-là, le vrai Dieu, il est absent, il n'est pas là. Un peu plus loin, Paul continue, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore ?» Il est à relever que Paul parle d'enfant. Dans la Bible, un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui n'est pas mature. Pour ça que j'ai pris dans mon exemple de Noël, etc., et de cadeaux, j'ai pris le cas d'un gosse, parce que j'espère quand même qu'un gosse de 5 ans préfère les cadeaux à son papa, ok, mais qu'un enfant de 35 préfère que son père soit présent ce soir-là, que celui-ci lui fasse des cadeaux, normalement. Normalement. Donc si nous décidons de suivre la voie ancienne des bénédictions, plutôt que celle nouvelle de l'intimité, les ressources, ça c'est, il faut comprendre ça, les ressources inépuisables de Dieu ne nous serviront à rien. Et c'est pour ça qu'on est si souvent fatigué et perplexe quant à notre vie à Dieu. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je vais reprendre Paul, voilà ce qu'il affirme Paul, toujours dans Galates, mais au chapitre 5. Moi, Paul, je vous le dis, il est assez dogmatique et radical sur ce coup-là. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, alors c'est le principe de l'ancienne alliance, de l'ancienne voie, hein, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Il dit, si vous reprenez l'ancienne voie, symbolisée ici par la circoncision, ben le Christ, qui vous promet plein de choses, ben le Christ, il ne vous servira plus à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, donc de l'ancien chemin. Vous êtes déchus de la grâce, donc vous tombez littéralement de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. Autrement dit, si nous cherchons à plaire à Dieu par obéissance servile, ah, il faut lui obéir, hein. Si nous tentons de lui plaire pour qu'il nous bénisse, si nous tentons de vivre dans l'obéissance à sa parole par nos propres forces, c'est ça la religion, hein, essayer d'atteindre Dieu par ses propres forces. Si nous glissons de la grâce vers une version édulcorée de l'ancien chemin, Paul nous dit que nous sommes fous et pires. Nous serons fous et malheureux. Malheureux. Rappelez-vous notre ami Asaph, hein, dont j'ai parlé dimanche passé. Psaume 73, hein, si vous en souvenez. Asaph, c'est 1000 ans avant la naissance de Jésus. Je l'ai dit, c'est le responsable de la louange du temps du roi David. Alors, son cadre de vie, c'est l'ancienne alliance. Lui, il espérait la venue de Jésus. Manque de bol, forcément, il n'a pas vu le Christ arriver parce qu'il est né 1000 ans avant sa naissance. Mais même au milieu de toutes ces lois de la loi de Moïse, de toutes ces structures assez contraignantes, même au cœur de ce système, il a compris qu'on pouvait d'ores et déjà vivre par la grâce dans l'intimité de Dieu. Si on le choisissait lui plutôt que ce qu'il pouvait donner. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a fait ça. Hein. David l'a fait, le roi David, Moïse, Abraham et bien d'autres. Ils avaient compris. Donc moi, je pense vraiment que même dans l'ancienne alliance, les gens qui sont sauvés, ce sont des gens qui ont été sauvés par grâce déjà. Vous comprenez ? C'est déjà le principe. Donc si nous choisissons les avantages fantasmés d'une relation avec Dieu, à l'intimité avec lui, Paul nous dit que nous sommes fous. Alors vous aurez compris peut-être que ce glissement de la grâce vers une remise à jour appauvrie de la loi était déjà à l'œuvre dans les églises chrétiennes du 1er siècle. C'est le premier danger qu'a connu l'Église et ça a failli la détruire, ce problème. Donc ces chrétiens d'origine juive disaient « Vous devez revenir sur un chemin de religiosité, de religion pour vous approcher de Dieu. » Donc voilà où le raisonnement de l'apôtre le mène en bout de course. Christ ne promet aucune aide si votre objectif prioritaire est d'obtenir des bénédictions en accomplissant de bonnes œuvres. Parce que dans ce schéma-là, mes amis, on n'a pas besoin de lui. Ce qui signifie pratiquement que si vous êtes des super spirituels, ce qui signifie que pratiquement vous aurez beau prier, jeûner, participer à des séminaires, acheter des livres. C'est bien d'en acheter, d'en lire, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Donner le double de la dîme, ça, j'ai jamais vu, mais enfin, soit, on peut toujours rêver. Ne jamais oublier aucun anniversaire d'aucune de vos connaissances, être vraiment quelqu'un de super, voilà. Les ressources de l'esprit ne vous serviront à rien. Pourquoi ? Parce que Dieu ne vous aidera jamais à vivre selon l'ancienne voie. Il ne vous aidera pas à faire ça. Parce qu'il sait que ça va vous éloigner de lui et pas vous rapprocher. Alors, peut-être que vous commencez à comprendre, c'est comme le troisième dimanche quand on parle de ça, pourquoi notre ciel semble parfois si désespérément vide alors qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Alors, si je devais rendre notre problème en une phrase, que dis-je en une phrase, en un mot, ce mot serait « moyen ». Dieu est le moyen d'être béni. Alors ça, si, pour ceux qui ont un peu de culture biblique, c'est un épisode de l'Exode. Rappelez-vous, les Juifs font, Dieu s'approche pour devenir intime avec eux. Ils disent quoi ? Non, non, nous on veut à manger. Ils donnent la manne. Un peu après, je me rapproche, je veux l'intimité. Non, 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 non. Non, maintenant on aimerait bien de la viande. Okay, ils donnent de la viande. Puis à peu près, je vais me rapprocher. Non, 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 maintenant on a soif. Et là, Moïse, il en a tellement ras-le-bol que Dieu lui dit, tu vas frapper le rocher. Il ne rend pas gloire à Dieu. Ouais, c'est mécanique ce qui fait ça. Ça devient un moyen pour qu'il ait la paix. Il n'en peut plus. Il frappe le rocher et Dieu bénit. Donc l'eau coule et le peuple est abreuvé. Seul problème, c'est que c'est ça qui va coûter l'entrée en terre promise à Moïse. Tu m'as chosifié, moi qui suis ton Dieu. Tu t'es servi de moi comme un moyen pour accomplir quelque chose. Alors, j'ai dit comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais quand on y réfléchit, c'est absolument horrible et absurde de fonctionner comme ça, de faire de Dieu un moyen d'être béni. Donc c'est une horreur parce qu'on chosifie Dieu, on s'en sert, on le fait le serviteur de nos désirs, et c'est une absurdité parce qu'il est clair que jamais, mais ça je veux être catégorique, jamais Dieu ne se laissera enfermer dans une telle vision de la vie spirituelle. Il ne se laissera jamais enfermer là-dedans. De plus, chosifier Dieu revient à le faire passer de l'incréé du domaine de l'incréé, ce qui n'est pas créé, au créé. On fait de lui une créature à notre service alors qu'il est créateur de toutes choses. Au début de la guerre de sécession, vous voyez, 1861-1865, un partisan du président Lincoln affirma son espoir que Dieu était du côté des nordistes. À l'époque, les sudistes disaient « Dieu est de notre côté ». Dans toutes les guerres, c'est comme ça. Il y a toujours les deux côtés, il dit « Dieu est de notre côté ». Donc, il y a un partisan Lincoln qui lui dit « Monsieur le Président, moi je souhaite vraiment que Dieu soit de notre côté. » Et Lincoln lui a répondu ça. « Je sais que le Seigneur est toujours du côté de la justice. Mon souci consiste. » Donc, il dit « Moi, je suis certain qu'il est de notre côté, puisque ce qu'on fait est juste, on va abolir l'esclavage, etc. » Et il rajoute « Mon souci constant et ma prière est que moi-même et la nation tout entière, nous soyons du côté de Dieu. » Que Dieu soit de notre côté, c'est le cas. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que nous, on est de son côté à lui ? Donc, je pense que Lincoln avait raison. Nous passons notre temps à essayer de nous servir de Dieu. J'ai, il y a quelque temps de ça, pu m'admirer un magnifique autocollant posé à l'arrière d'une voiture. Parfois, on est dans une file de voiture, il y a des autocollants comiques à l'arrière des voitures. Enfin, celui-là m'avait frappé. Tu peux mettre la suivante ? God is my co-pilot. Pilot, pardon. Dieu est mon copilote. Mais c'est une catastrophe. Votre copilote, depuis quand ? C'est lui qui pilote la bagnole, c'est pas vous. C'est Dieu qui est le pilote. Votre copilote, qu'est-ce que c'est un copilote ? C'est un gars qui aide le pilote. Vous n'aidez à rien du tout. C'est lui qui doit prendre les commandes de votre vie. Vous ne l'aidez pas à vivre votre vie. Vous ne devez pas l'aider à vivre votre autre vie. Vous devez lui laisser les rênes de votre vie, le volant. On va reprendre un texte. Dans l'évangile de Luc. Bon, j'espère que ça va éclairer un peu la donne. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Après 3 ans, quand même, les disciples commencent à être amis. Ils le suivent plus seulement parce qu'il fait des miracles, parce qu'il est un prophète ou tout ce que vous voulez. Ils commencent à le suivre parce qu'ils sont liés à lui affectivement. Ils deviennent vraiment ses amis. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Enfin, ou Géhenne dans le grec. Je n'ai pas le temps de... On voit pas l'enfer avec des flammes, ce n'est pas le contexte. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est toujours sympa à entendre, qu'aux yeux de Dieu, on vaut plus que des moineaux. Il y a quand même certains pays du monde où les moineaux sont plutôt minces et maigres et anorexiques. Jésus parle de peur. Pourquoi est-ce qu'il parle de peur? Tout simplement parce qu'on peut avoir peur de beaucoup de choses dans la vie. Et qu'il y a un facteur aggravant de la peur, c'est qu'elle nous immobilise. Ça a un effet, la peur. C'est qu'on est totalement tétanisé. Je pense que la peur est une accompagnatrice intime dans la vie des hommes. Je n'ai pas le temps d'énumérer, de lister toutes les formes de peur, mais il y en a quelques-unes. Et pourtant, Jésus nous dit ici de ne pas avoir peur. Il va même jusqu'à nous dire de ne pas avoir peur de perdre la vie. Car le plus grand danger ici-bas que nous courions sur cette terre, ben c'est de perdre la vie. On est bien d'accord, hein, il n'y a rien de plus grave. Mais ça devient insignifiant quand on comprend que seul notre corps est l'objet des attaques que peuvent nous faire les hommes. Un peu plus haut d'ailleurs, ces hommes qui pourraient nous faire du mal sont représentés par des loups. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur, dit Jésus? Ben parce qu'il y a un après à cette vie. Il y a un ensuite. La mort dans cette perspective est pour les disciples un accès à cet avenir. D'où leur liberté et l'appel à ne pas avoir peur, puisqu'il y a quelque chose qui vient. Alors pourquoi est-ce que je dis ça dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire? Eh bien parce que pour le frère de Jésus, pour la sœur de Jésus que nous sommes peut-être, il ne devrait plus exister qu'une seule peur. Et c'est ce que dit ce texte. C'est la peur de perdre l'amitié de Dieu. Moi, je pense que celle-là, on s'en fout. Hein. Ça, c'est mon sentiment, je peux me tromper. Hein. C'est de ça que nous devrions avoir peur. Parce que quand on est l'ami de quelqu'un, la seule chose qui fasse peur dans cette relation d'amitié, c'est de perdre cette amitié, non? Si vous aimez vraiment un ami et qu'il vous aime, c'est de ça que vous devriez avoir peur. Pas de ce qu'il vous amène, pas de ce qu'il peut vous donner, pas ce qu'il vous apporte. C'est de le perdre lui en tant qu'ami. Quand on y réfléchit, c'est le cri, parce que ça devait être un cri, hein, poussé par le roi David lors de sa confession, quand il confesse son péché. Rappelez-vous, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Moi, ça m'interpelle cette phrase. Hein. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, ne me rejette pas loin de toi. Il dit ça à Dieu. Hein. Moi, ça me frappe parce que le roi David ne demande pas à Dieu de lui conserver la royauté. Hein. Oh Seigneur, fais en sorte que je reste roi. Hein. Il ne demande pas de conserver ses privilèges de roi, son pouvoir, les bénédictions que Dieu a fait pleuvoir dans sa vie. Tout ce que Dieu lui a donné parce qu'il ne le recherchait pas justement. Il a reçu tout ça parce qu'il n'a jamais recherché ça, David. Il est devenu roi parce qu'il n'a jamais pensé le devenir. Il n'a jamais recherché ça. Puis quand vous voyez la vie du roi David, humainement parlant, au niveau terrestre, c'est une vie de con aussi par rapport à nos critères, à nous qui voulons être heureux. Ne me quitte pas. On célèbre les 40 ans de la mort de Brel, ben c'est exactement ça. C'est ça dont il a peur, David. Je ne veux pas te perdre, toi, à cause des bêtises que je peux faire ou dire. Il demande à Dieu de le pardonner et de lui conserver sa présence. Autrement dit, son amour, sa grâce et son amitié. La seule fois où David a désiré autre chose que Dieu, à savoir quoi ? Bathsheba, la femme d'un autre, et qu'il a tout fait pour l'obtenir. Ça s'est terminé par un meurtre. Et il a perdu Dieu de vue. Et il s'est éloigné de Dieu. Mes amis, lorsque nous empruntons, ça c'est un critère objectif récurrent, hein. Lorsque nous empruntons l'ancienne voie, nous perdons toute capacité à voir honnêtement que les bonnes choses sont imprévisibles et que les mauvaises sont inéluctables. C'est pour ça qu'on a souvent besoin des autres, c'est pour ça que Dieu a inventé l'Église aussi, pour nous dire sur quelle voie nous sommes, parce que par nous-mêmes, nous en sommes rarement conscients. Nous pensons souvent être sur la bonne voie alors qu'on est sur la mauvaise. Donc c'est Bilbon Sacquet, en tout cas dans la traduction française. Alors Bilbon Sacquet est un hobbit, enfin soit, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'œuvre de Tolkien, mais Bilbon Sacquet en fait est embarqué dans une grande aventure. Ses compagnons et lui doivent récupérer le royaume des nains, qui a été usurpé par un dragon. Lorsqu'au bout de bien des dangers et des péripéties, ils arrivent enfin dans le palais du dit royaume, un palais qui se trouve dans une montagne, Ils sont euphoriques et se réjouissent de quoi? De ce qu'ils ont récupéré? Non, non, du trésor qui un trésor mais invraisemblable, du trésor qui se trouve dans le palais. Et ils font la fête parce qu'ils sont dans les pièces d'or. Et c'est à ce moment-là que retentit un grondement sourd, pareil à un volcan entrant en éruption. Il y a un dragon qui garde le trésor. Ce qui a fait dire à Tolkien, celui qui a écrit cette série de livres sur les Bilbon le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, voilà ce qu'il a dit Tolkien dans un de ses livres. « Il ne sert à rien d'exclure un dragon de vos prévisions si vous vivez près de lui. » Alors, j'ai un scoop pour vous. Vous vivez à côté d'un dragon. En fait, notre dragon, à nous, il a trois têtes. On n'a pas de bol. Hein. Lui, il est ici, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une. Elle est déjà assez effrayante comme ça. Le nôtre a trois têtes. Il possède trois têtes. La première tête, c'est le monde qui nous entoure. Alors, je précise à nouveau que dans la pensée biblique, le monde, quand il est présenté négativement, fait référence à un système de pensée dont Dieu est exclu et qui dès lors ne tient plus aucun compte de lui. C'est ça le monde dans la pensée biblique quand on parle du monde, quand Jésus parle, on parle du monde de manière négative. Ce n'est pas les gens, c'est un système organisé qui l'exclut. C'est ça le monde. Deuxième tête, je sais bien qu'on n'en parle pas souvent, et moi je préfère parce que ça lui fait être d'honneur, mais enfin il est dans la Bible. Il y a deuxième tête du dragon, il y a le diable. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, dira d'ailleurs qu'il rôde près de vous, cherchant qui dévorer. Et qui est d'ailleurs parfois comparé, c'est amusant, enfin amusant si on peut dire, à un dragon. Dans l'Apocalypse, il est souvent comparé à un dragon. C'est symbolique, mais ça dit quelque chose quand même. Et puis la troisième tête, c'est pas la moindre, moi je pense que c'est la plus problématique des trois. La troisième tête, c'est notre ancienne nature, ce que la Bible appelle, dans le grec, stax, la chair. Pas les taxes, hein, c'est stax, la chair. Donc notre ancienne nature. Autrement dit, notre nature non régénérée par Dieu, qui vit encore en nous et qui s'oppose au Saint-Esprit. C'est ça l'ancienne nature. Il y a donc de quoi faire, mes amis. Ce dragon à trois têtes est donc notre pire ennemi. Vraiment. Alors, sachant ça, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi, hein, on se dit qu'on devrait se méfier quand le dragon nous parle, parce que la bébête parle, hein. Dans l'œuvre de Tolkien, elle parle. Oui, Tolkien a donné la parole au dragon, c'était une pas de bonne idée, mais enfin, soit. Eh bien, notre dragon à nous, il parle aussi. Et donc, il a trois têtes pour faire ça. On devrait se méfier quand il parle. Oui, ben, le problème, c'est quand notre dragon à nous rugit, sa voix ne ressemble pas, comme dans les livres de Tolkien ou dans sa version cinéma, elle ne ressemble pas du tout au grondement d'un volcan en éruption. Pas du tout, malheureusement. Parce qu'on aurait peur et on détalerait. Eh bien non, sa voix ne fait pas peur. Sa voix ressemble plutôt à celle d'un ami qui nous veut du bien et qui est venu pour souper avec nous, prendre du temps avec nous. Il nous parle des bonnes choses qui pourraient nous arriver et ce que nous pourrions faire pour aider un peu plus la roue du destin à tourner à notre avantage. Il semble amical, bien intentionné, et soucieux de nos intérêts. On est important pour lui. Plus encore, il n'hésite pas un instant à glisser un peu de religion dans la conversation. En fait, il adore parler de ce que Jésus peut accomplir pour nous et renforcer l'enseignement que nous avons reçu quant à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Ça revient souvent dans la conversation, ça. Alors, il n'est pas toujours facile de dire quand ça se produit, mais à un certain moment, un glissement s'opère dans notre pensée, dans notre tête. Au cours de la conversation avec l'une des têtes du dragon, ou même parfois avec les trois à la fois, nous cessons de considérer le Christ comme notre Seigneur, si du moins c'est comme ça que nous ne l'avons jamais considéré, pour ne plus voir qu'en lui un ami bien utile, mais vraiment bien utile. L'intérêt de le connaître est alors lié à la possibilité de jouir d'une bonne vie dans ce monde. Profite, Jésus veut que tu profites. Paul, par exemple, n'a jamais commis l'erreur de ne pas tenir compte du dragon dans ses calculs. Lui, il savait bien qu'il y avait un dragon. Et je trouve important de relever que l'une de ses méthodes pour résister à l'attrait de ce message du dragon, une des façons dont il faisait, c'est pas la seule, mais pour moi c'est celle dont j'ai envie de parler aujourd'hui, Paul parlait ouvertement de ses souffrances, de ses difficultés, de ce qu'il vivait. Il n'a jamais dit « Oh, la vie est merveilleuse avec le Seigneur », ce qu'on dit dans toutes les églises, hein, la plupart du temps. Ça va, « Oh oui, le Seigneur est bon ». Il faut suivre la personne après dans la rue, hein, c'est assez symptomatique. Moi, j'ai eu des couples se donner la main pendant le culte, et dès qu'ils tournaient le coin de la rue, « Laisse-moi, pauvre con ». Voilà. J'ai vu ça, moi, hein, je vous assure que c'est vrai. Paul n'a pas commis cette erreur. Il savait qu'il y avait un dragon. Et il parlait donc de ses souffrances, parce qu'il savait que c'était une manière de lui fermer, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit, la gueule. On parle de la gueule d'un chien, pas de la bouche d'un chien, mais pour le dragon, c'est la même chose. Un dragon, ça a une gueule, ça n'a pas une bouche. Il n'y a que les hommes qui ont des bouches. Paul parlait ouvertement de ses souffrances. Il en parlait même dans ses lettres. Il écrivait à des églises qu'il souffrait. On peut dire, oh, c'est pas comme ça qu'il va l'encourager. Ben si. Alors, il ne parlait pas de ses souffrances pour s'en plaindre, mais bien pour nous rappeler que la vie abondante liée au fait de suivre Jésus signifiait d'abord qu'il existait de nombreuses occasions de s'approcher de lui, même dans les temps difficiles, et que le chemin à la suite du Christ n'était pas pavé d'une pluie de circonstances agréables et de bons sentiments. Ça n'est pas vrai. Écoutez ce qu'il a dit à ses frères et sœurs de l'église de Corinthe, qui étaient apparemment plus soucieux de goûter dès maintenant et ici-bas ce que Dieu avait promis pour le ciel. Nous sommes pressés de toutes parts, il parle de lui et des apôtres, hein, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Il cache rien, Paul, hein, honnêtement. Mais c'était intéressant. Hein. On est écrasé. C'est quand même un terme... En fait, le grec est plus proche d'écrabouiller que d'écraser. Parce qu'il y a plusieurs... La langue grecque est très riche. Elle a beaucoup de termes différents pour dire écrabouiller, écraser, massacrer. C'est une langue très riche, la langue grecque. Inquiet, forcément, mais pas pour lui, pour les églises, hein, ça je précise. Hein. Mais non désespéré. Moi, je suis inquiet, Paul. Oui, parce que quand je vous vois fonctionner, les églises, moi, je suis vraiment inquiet. Mais je ne suis pas désespéré. Pourquoi ? Parce que mon espérance, elle est en Christ, et ça ne bouge pas. On est persécuté, bien sûr qu'on est persécuté. On est en tôle, on nous bat, on nous fouette. Mais moi, je sais que je ne suis pas abandonné, parce que quand je suis en tôle, c'est avec Jésus que j'y suis. Et puis, il ne m'a rien promis d'autre que ça, en fait. On est abattu, mais bien sûr, c'est dur, mais on n'est pas anéanti. Parce qu'on ne peut pas anéantir la présence de Dieu dans un être. Ce n'est pas possible. Dans les circonstances vraiment difficiles de la vie, mes amis, je parle pour les chrétiens, là, il y a des tuiles qui tombent. Parfois, c'est même pas la tuile, c'est le toit qui tombe sur votre tête. Je parle à la perte d'un enfant, des trucs comme ça, c'est des trucs terribles. Si vous n'êtes pas un intime de Jésus à ce moment-là, vous serez anéanti. Ça, je vous le garantis. Ce n'est pas une prophétie, hein, c'est comme ça. Si vous êtes en Jésus, ça va faire un mal de chien. Ça, je vous le garantis, je suis passé par là. Mais vous ne serez pas détruit. Parce qu'il tiendra la barque. Parce que rien ne garantit que vous n'allez pas prendre de toit sur votre tête. Il faut sortir de cet évangile de la prospérité où les chrétiens, parce qu'ils sont en Dieu, vont être protégés de tout et de tout le monde en permanence. Ça n'est pas vrai. La vie de Paul n'était pas agréable. Si on est honnête deux minutes, lisez le Nouveau Testament. Même l'Ancien, mais commencez par le Nouveau. Hein. Lisez le Nouveau Testament, ce que Pierre dit, lisez les Actes. La vie de ces hommes et de ces femmes de Dieu, on est horrifié de cette vie parce qu'on n'est pas au même endroit, parce qu'on ne vit pas ça, on ne vit pas cette intimité. On n'en voudrait pas de cette vie. Elle n'était pas agréable, la vie de Paul. Et j'ai déjà dit qu'aucun d'entre nous n'en voudrait de cette vie. Et bien, mes amis, c'est bien là le problème. On n'en veut pas de cette vie. Vous avez envie d'être fouetté, mis en tôle pour le Christ, vous? La plupart d'entre nous diront non, merci. C'est honnête, hein, mais on a un problème. On a un problème. En admettant même que sa vie n'était pas agréable et en abandonnant tout espoir qu'il puisse un jour, que sa vie puisse devenir agréable, Paul se libéra en même temps de toute pression d'imaginer un moyen de la rendre facile. Il n'était plus esclave de ça. Paul vivait pour connaître Dieu, non pour se servir de lui. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande église au monde, elle est dans la rue. Elle est constituée d'hommes et de femmes qui, en fait, ont laissé tomber Dieu et l'église. Alors, il y a certainement de nombreuses raisons à ça, mais la raison principale, c'est que la plupart de ces chrétiens ont pris des tuiles alors qu'ils n'étaient pas des intimes, devenus des intimes de Dieu. Et les tuiles les ont anéantis. Et comme ils avaient une vision d'un Dieu qui devait forcément les protéger de tout, quand la vague, quand le malheur arrive, ben vous êtes emportés. Paul vivait pour se rapprocher de Dieu et pour ressembler à Jésus. Relisez l'Épître aux Philippiens, il parle que de ça quasi. Vous savez, on peut dire oui, mais c'est pas non, mais quand on réfléchit, dans Philippiens, il y fait allusion, hein, quand il dit j'ai tout considéré comme, et alors là, les traductions françaises sont très gentilles et très châtiées, comme des ordures. En fait, le terme grec est plus radical que ça, c'est un mot de cinq lettres commençant par M et terminant par E. J'ai tout considéré comme de là, afin de connaître le Christ et d'être trouvé en lui le jour où je paraîtrai devant Dieu. Paul, c'est pas rien. Un père dans les affaires, des thunes, un jeune qui promet, un intellectuel, un érudit, un jeune qui promet dans le judaïsme de son temps. Il est, malgré son jeune âge déjà, bien positionné dans le top du top de l'autorité religieuse de son temps. Il est probablement marié, ce qu'on oublie, parce qu'il vote au Sanhédrin et il fallait être marié. On a retrouvé les ordres, l'ordre intérieur du Sanhédrin, donc du conseil de la nation juive. Il fallait être marié pour y siéger. Et Paul y siégeait, donc on peut déduire objectivement qu'il était marié. Il ne parle plus jamais de sa femme après. Pourquoi on n'en parle plus? Alors qu'on parle de la femme de Pierre. Parce qu'il a perdu sa femme. Parce qu'il a perdu ses parents. Ses parents qui étaient juifs, pharisiens, lui ont dit « Tu vas te faire foutre avec ton Jésus. Tu trahis la loi, la religion de tes pères. » Paul a tout perdu pour connaître Jésus. Tout. Et nous, la plupart du temps, on est prêt à perdre rien. S'il nous donne, on veut bien. Mais s'il y a des trucs qui se retranchent, difficile. Hein? Il vivait donc pour se rapprocher de Dieu, notre ami Paul, pour ressembler à Jésus, pour suivre l'Esprit, et pas pour vivre d'une manière suffisamment agréable à Dieu pour qu'il déverse sur lui ses bénédictions. Parce que là, c'est pas rare. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut encore prêcher la vie, l'évangile du bonheur, alors qu'aucun texte ne va dans ce sens-là. Mais enfin, il y en a certains qui sont, ils sont choqués par rien, quoi. Donc cette angoisse dont il parle dans le texte qu'on vient de voir, et il y a d'autres textes où il parle de ses angoisses, l'angoisse de sa vie qu'il avait pleinement acceptée, en fait devint la réponse à l'invitation du dragon de changer de chemin. Le dragon en question, il va toujours vous demander, il va toujours vous proposer de changer de chemin, l'intimité avec Dieu, mais tu ne vas pas y arriver. Demande-lui de te bénir plutôt. Tu vas à l'église de temps en temps le dimanche, tu es un bon chrétien, il va te bénir. Et c'est pour ça que Paul, et ce n'est pas de la condescendance, hein, c'est vraiment de la compassion. C'est pour ça qu'il plaint profondément ceux qui cèdent à cette proposition, car il sait qu'il se prépare à une vie bien malheureuse. Il dit dans la première aux Corinthiens, « Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si vous pensez que c'est ici que tout va se jouer, que tout va se faire, et que ça se limite à ça, Paul dit, vous allez être malheureux. Alors, je vous rassure, je termine en disant ça, Paul n'était pas un messager de malheur, hein, rassurez-vous. N'annonçant que des catastrophes dans sa vie à lui, à vue humaine, c'est vrai que ça n'avait pas l'air de tourner, d'aller très fort, mais il savait pourquoi. Notre ami Paul s'est simplement contenté de tenir compte du dragon dans ses prévisions et de rechercher Dieu pour Dieu. De vouloir Dieu pour Dieu. Parce que c'est ce que nous propose Jésus, en fait. Hein. Vous pouvez connaître votre Père intimement, lui. Et quand ce principe de vie commence à se mettre vraiment en action, si Dieu vous bénit, mais c'est génial, merci Seigneur, mais s'il ne vous bénit pas ici, si vous avez des problèmes, bien sûr que ça sera difficile, mais votre moi profond sera installé en Dieu. Et vous conserverez votre stabilité. On n'a pas fini sur le sujet. en attendant que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.